conflit avec le Rwanda. Il l'a déjà évoqué hier, Félix Tshisekedi, lors d'une prise de parole au collège des Bernardins à Paris, où il a présenté son livre « Un Congo retrouvé ».
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire sous-entendue,
je vous ai choisi un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du XXe et du XXIe siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Amis auditeurs, bonjour. Le roman que nous allons partager avec vous aujourd'hui s'intitule « L'ami arménien », publié en 2021 aux éditions Grasset. Son auteur, Andrei Makin, s'est fait connaître en 1995 avec le Testament français, couronné par les prix Goncourt, Goncourt des lycéens et Médicis. Depuis 2016, il est membre de l'Académie française. D'origine russe, il s'inspire ici de ses propres souvenirs de jeunesse. L'action se passe en Sibérie dans les années 70, sous le régime soviétique. Dans cette terre lointaine, se côtoient les autochtones, des orphelins, comme le narrateur, des déracinés et des prisonniers politiques arméniens, ainsi que leurs familles venues les soutenir dans l'attente du jugement et sans doute d'un exil encore plus lointain. Le narrateur, adolescent aguerri par une vie rude à l'orphelinat, devient le défenseur et le protecteur de Vardan, un jeune arménien de constitution fragile, au comportement parfois étrange. Il découvre avec lui une vie de famille autour de sa mère Shamiram et de la belle Gulizar dont le fiancé est emprisonné. Il fait aussi connaissance avec une communauté chaleureuse unie autour de Sarven, un imposant et sage vieillard. Un monde où la beauté s'immisce même dans le quotidien le plus sordide. Mais peu à peu, il comprendra l'horrible réalité qui se cache au sein de leur histoire et dont témoignent deux précieuses photos, seules traces des familles décimées.
Il m'a appris à être celui que je n'étais pas. Dans ma jeunesse, j'exprimais ainsi ce que la rencontre avec Vardan m'avait fait découvrir de mystérieux et de paradoxal derrière le manège du monde. Ce soir-là, il parlait d'une voix calme et lente, tel un écho affaibli par une très grande distance, sa voix habituelle. Pourtant, ce qu'il disait semblait friser la folie. Ou bien, voulait-il se moquer de moi? J'avais eu parfois cette impression au début de notre amitié. Tu veux que je touche le ciel comme ça avec mes doigts? Je secouai la tête, laissant entendre un esclaffement de défi. Vardan leva sa main et se figea pendant quelques secondes, le temps que je puisse apprivoiser sa vérité. Voyant que je ne comprenais toujours pas, il expliqua sans réussir à dissimuler sa propre sidération, tant le fait lui paraissait incroyable. Là, à notre hauteur, c'est le même air qu'au milieu des nuages, n'est-ce pas? Donc, le ciel commence à partir d'ici, et même plus bas, tout près de la terre, en fait, sous nos semelles. Désemparé par son raisonnement, je faillis plaider la différence entre les couches d'atmosphère, leurs multiples strates ordonnées selon un étagement dont nous étudions la graduation dans nos cours de sciences naturelles. Tous ces cirrus, nimbus et autres altocumulus. Heureusement, je me retins de le contredire. Et grâce à notre bref silence, ces minutes allaient demeurer intactes dans ma mémoire, à l'abri des finasseries verbales de l'érudition. Ce soleil bas, la sérénité des dernières journées d'août, la dorure transparente des feuillages, un ciel gardant encore sa tiédeur velouteuse d'été tardif, et cette main d'adolescent, ces doigts minces qui planaient dans le bleu entre les tracés blancs laissés par un avion et nos jeunes souffles suspendus à la frontière d'une humble et vertigineuse révélation. En grandissant, je devinerai la vraie signification de ce geste. Vardan me faisait découvrir bien davantage que s'il avait voulu me surprendre par une amusante curiosité atmosphérique. Il parlait, sans pouvoir vraiment la définir, d'une existence nouvelle où notre pensée échappait à l'ordre de ce monde et nous offrait une autre manière de vivre et de voir. Notre raison s'y opposait, avec tout son brutal réalisme. Mais une volonté mystérieuse en nous ne demandait qu'à pouvoir explorer la légèreté de ce ciel qui venait de s'ouvrir sous nos pas.
Une autre découverte que je devais à Vardan fut infiniment plus troublante, et pourtant toujours semblable en un sens à la descente vers nous de l'orgueilleuse voûte céleste, devenue accessible au toucher de nos mains. Une femme, ivre, traversait les voies d'un chemin de fer, un lacis de rails qui s'entremêlait, bifurquait, se perdait dans la bruine d'une journée venteuse et maussade. Assommée d'alcool, elle trébucha, exécuta un balancement d'équilibriste, cherchant à ne pas perdre la face dans ce tangage comique, et enfin, comme si tout lui avait semblé finalement égal, s'affala sur une traverse maculée de goudron, se courba, se tassa, prenant la pose d'un gros oiseau désarticulé par la douleur. Deux hommes qui nous devançaient, marchant sur un passage à niveau, la dévisagèrent, poussèrent un ricanement et l'un d'eux cria « Hé, Anna Karénine, fais gaffe, l'express Moscou-Irkoutsk va bientôt passer !» L'autre lâcha avec un dédain persifleur « Mais non, elle aura le temps de dessouler avant de lever son cul. Il arrive dans 3 heures, l'express. » Les hommes en ricanant, et nous allions leur emboîter le pas, quand soudain, Vardan s'arrêta et observa la femme avec une insistance qui me sembla incongrue. Nous étions assez grands pour savoir de quelle sorte de femme il s'agissait. Plus d'une fois, nous l'avions aperçue faisant les 100 pas entre la station ferroviaire et un dépôt de bus, puis se glissant dans le buffet de la gare, s'attablant dans un coin, façon comptoir. Toujours ce maquillage copieux, ses paupières charbonneuses de mascara et une chevelure moussante en écume de bière. À présent, assise sur une traverse, le menton serré dans sa main, comme pour soulager un mal de dents, elle écartait ses jambes, découvrant des bas aux mailles défilées et des cuisses maigres sous une jupe de satin, trop colorée et festonnée, trop légère pour un après-midi frais et humide. Je n'eus pas le d'adresser un avertissement ou un mot de désapprobation à Vardan. Il avança, s'inclina et fit ce que je n'aurais jamais cru possible. Avec une fermeté précautionneuse, il soutint le coude de la femme, le haussa lentement et, attendant qu'elle comprenne son intention, l'aida à se relever. Sans rien m'expliquer, il allait accompagner cet inconnu qui trébuchait sur ses talons, la guider vers un lotissement de maisons en préfabriqué derrière les voies ferrées, vers une entrée où, confusément, elle donnait l'impression de vouloir se diriger. Je l'ai suivi, et au moment où Vardan l'aida à ouvrir la porte, la femme tourna la tête, et sur son visage, défait par l'ivresse et l'abrutissante mimique que son métier lui imposait, je vis un regard étonnamment conscient, facetté de larmes, un reflet de tendresse incrédule.
L'étrange De Vardan fut très vite remarqué et traqué par son nouvel entourage, les élèves de notre école. Cette autre fourmilière, régie par des lois de rivalité féroce et le mépris pour les faibles. Le jour de son arrivée, à la fin des cours, on l'encercla dans l'atelier où nous apprenions la menuiserie. N'allant pas vraiment jusqu'à l'agresser, on le harcela de railleries, d'injures et de rapides tournioles plus dédaigneuses que méchantes. Sa petite taille et sa complexion malingre ne méritaient pas une vraie bagarre. On se serait comporté ainsi face à une bête sans défense, trop délicate pour résister et dont l'aspect insolite eût provoqué l'envie de la secouer, de lui pincer les oreilles, de lui faire peur. Vardan restait immobile, presque absent, posant sur ses persécuteurs un regard songeur de ses grands yeux sombres, ne rajustant même pas sa chemise que les autres tiraient en couinant leur plaisir d'effrayer et en savourant le sentiment d'impunité. Je devinais ce qui excitait leur hargne, l'étrangeté de ce visage, sa finesse ciselée et ses yeux. Trop grand, devait-il penser en le bizutant, aux cils longs, aux dessins trop beaux pour un garçon, des yeux de fille. Son manque de réaction finit par les exaspérer. Il le poussait maintenant, en essayant de le faire trébucher et tomber, lui donnait des claques, suivies par des ordres. « Allez, vas-y, parle-nous, baragouine un peu dans ton putain de sabir. Comment on dit, déjà en arménien, une sale petite gueule de femmelette ? Tu as avalé ta langue ou quoi ?» Je m'interposais quand l'un des agresseurs se racla la gorge et lui cracha au visage. L'intention de dégrader la rectitude de ses traits, sa gracilité féminine, était facile à percevoir. Je hurlai un juron, bousculai le cracheur et alors, ce qu'il ne parvenait pas à faire subir à cet adolescent indolent, un tabassage en règle, se retourna contre moi avec une explosion de sauvagerie auparavant contenue. Je réussis à éviter d'être jeté à terre grâce à un bon réflexe. J'eus le temps de retirer ma ceinture. Sa grosse boucle avait été armée, alourdie d'une épaisse plaque d'acier et à son extrémité aiguisée en lame. Je fouettai une zone de survie autour de moi, me dégageai, lacérant les mains qui cherchaient à m'agripper, tailladant les poings qui s'agitaient dans la cohue de l'assaut. Reculant, je repoussai Vardan vers la sortie, lui faisant comprendre que la fuite était notre unique salut. Les autres nous poursuivirent. Je dus de nouveau faire tournoyer ma ceinture pour les tenir en respect et laisser mon compagnon gagner une longueur d'écart. Notre course se termina dans un quartier nommé le Bout du Diable, un endroit que les gens de la ville évitaient et où, depuis quelques semaines, aux côtés des derniers habitants, s'étaient installés quelques Arméniens. Dans des maisonnettes basses, aux murs en briques foncées ou bien en rondins de cèdre, plusieurs pièces étaient louées par ces nouveaux arrivants. L'un d'eux, un vieil homme de grande taille, j'allais apprendre qu'il s'appelait Serben, se tenait à l'entrée de son logis. La bande essoufflée de nos poursuivants freina, butant contre son regard dissuasif et sa carrure de géant, piétina sur place, puis rebroussa chemin en direction de la ville. Le vieil homme nous salua, moi en russe, Vardan avec deux ou trois mots de cette langue extraordinairement sonore que je finirai bientôt par reconnaître et aimer. Pour la première fois, je pénétrai dans ce que les autres habitants du bout désignaient sous un vocable ironique mais affectueux de « royaume d'Arménie ». Et le roi de cet éphémère état fut, de toute évidence, ce grand et placide moustachu de Sarvène. Après avoir, sans un geste de menace, repoussé les agresseurs, il s'assit sur un banc, le dos contre les rondins d'une maison en bois où il avait trouvé à louer une chambre. Les murs avaient été bien chauffés par une journée encore douce de l'été finissant. Au-dessus de sa tête, une épaisse dalle de plâtre était fixée par des clous et percée d'une longue tige de fer. C'était une horloge solaire qu'il avait fabriquée, presque la même, nous raconterait-il un jour, que celle de son jardin en Arménie. L'ombre que traçait la tige au milieu des encoches marquait ces heures lointaines qui continuaient à couler dans sa maison natale.
Ce soir-là, après la bagarre dans l'atelier de menuiserie et notre fuite vers le bout du diable, Vardan me présenta à une dame âgée, vêtue d'une longue robe noire et d'un grand châle enveloppant ses épaules, sa mère, avec qui il échangea de brèves paroles dans leur langue sonore. La femme me regarda avec un air de gratitude. Je devinai que mon ami venait de lui raconter mon héroïque combat contre ses oppresseurs. Remarquant les écorchures laissées par leurs coups sur mes pommettes, elle apporta un petit flacon et les tamponna avec une boule de coton. C'était un parfum ancien, et son amertume de jacinthe évoqua obscurément un bonheur mystérieux que je n'avais jamais vécu, et qui devenait soudain plus exaltant et plus intense que les joies et les plaisirs dont j'attendais avec anxiété de conquérir ma part terrestre. La sensation me troubla, comme si quelqu'un d'autre s'était mis à respirer en moi. Oui, quelqu'un qui avait le don d'éprouver des émotions nuancées et subtiles, incomparables avec les réflexes de brutalité et d'endurance nécessaires à la survie d'un jeune adolescent dans nos rudes parages sibériens. Le picotement sur ma joue et le nuage d'arôme firent durer cet instant qui calma l'agitation du combat et de notre fuite. Une étonnante lenteur m'offrit le temps de tout observer sans hâte, d'un regard neuf, et étonnamment détachée de moi-même. Je voyais cette femme en vêtements de deuil, grande, imposante, et qui me souriait doucement. Je percevais l'intelligence de ses yeux sombres, qui me dévisageaient avec tendresse, la sérénité de son visage, dont la beauté semblait rehaussée par l'ample ondulation de ses cheveux grisonnants. Le lointain pays caucasien, dont je ne connaissais presque rien, se laissa imaginer dans la senteur amère du parfum, et plus encore, dans la patine de la résille d'argent qui enchâssait le flacon. La mère de Vardan s'appelait Shamiram, et, après m'avoir soignée, elle me parla d'une manière à laquelle je n'étais pas habituée et qui me transfigura par le seul timbre de sa voix en l'heure haute, m'octroyant la qualité d'un adulte respecté et rendant sans importance l'extrême dénuement de mon piètre statut social. « Et si vous preniez un café avec nous ?» Ce vouvoiement me confondit au point que je faillis me retourner pour voir la personne à qui l'on pouvait s'adresser ainsi. Une formule entendue dans un film historique me vint à l'esprit et resta évidemment muette, quelque chose comme « j'en serais honoré et ravi ». Hélas ! Inapte à ces raffinements protocolaires, je bafouillai un remerciement plat et embarrassé, en rougissant, en baissant la tête, mais Shamiram s'en allait déjà dans le petit local voisin, aménagé en cuisine. Tout avait été d'ailleurs réaménagé dans cette parcelle de maison qu'elle louait avec deux autres sujets du royaume. Plusieurs châles, comme celui qu'elle portait, servait de tenture dissimulant la surface écaillée des murs ou bien recouvrant le peu de meubles dont les Arméniens disposaient. Entre autres, cette couchette, fabriquée avec deux grosses valises, le lit de Vardan. Shamiram réapparut. Un plateau dans les mains, trois petites tasses, et ce que je pris pour un élégant vase d'argent. En fait, une cafetière, dont je reconnus déjà, avec un sursaut d'émotion, la patine. Ce reflet argenté et noir. La gamme qu'abusivement, peut-être, je rattachais déjà au royaume d'Arménie. La chevelure cendrée de Shamiram, la résille de son flacon de parfum, les moirures mates des châles, ce récipient délicatement ouvragé d'arabesques, trop beau et qui laissait échapper des volutes torréfiées. De cette première conversation, dépaysé comme je l'étais, il me resta une seule image, lumineuse et statique, mais retenue avec la force visuelle d'un éblouissement. En cette saison, dans les premiers jours de septembre donc, disait Shamiram, la transparence de l'air est telle que la silhouette de l'Ararat, la montagne tutélaire des Arméniens, apparaît avec une netteté picturale. En l'écoutant, j'éprouvais physiquement l'ivresse du souffle venant de ces pentes boisées, cet air grisant et ce ciel qui, selon Vardan, commençait tout près du sol, sous les semelles des vagabonds.
L'amitié qui m'avait uni à Vardan aurait pu s'effacer facilement. Nous n'étudions pas dans la même classe et, après les cours, je rentrais à l'orphelinat tandis que lui rejoignait son royaume d'Arménie et cette pièce louée par sa mère, Shamiram, dans le bout du diable. Mon rôle de garde du corps perdit progressivement son utilité. Les petits caïds de l'école avaient fini par se désintéresser de leur victime trop indolente et qui ne cédait pas aux provocations. Ils se montraient même un peu décontenancés face au regard fixe, impassible, de ces grands yeux foncés qui reflétaient un univers où ils n'existaient pas, où leur agressivité de jeune mâle en compétition perdait tout son prestige guerrier. Faute de comprendre la cause de son éloignement solitaire, je commençais moi-même à m'enlacer. Sans doute quelques indices discrets, notés inconsciemment durant ma brève visite, m'alertaient-ils que la grande joie que j'avais éprouvée au royaume d'Arménie pouvait aussi cacher une très grande douleur, et qu'il valait mieux ne pas ajouter son poids à ma vie déjà abondamment chargée de privations et de dureté. Mon intuition se confirma à peine quelques jours plus tard. En croisant Vardan sur le perron de l'école, je vis soudain qu'il était en train de s'étouffer, d'abord en avalant l'air avec une avidité fébrile, puis se mettant à haleter dans un soufflement forcé chointant. Il pressa sa main contre son plexus solaire et moi, croyant que, pris de nausée, il avait envie de vomir, je l'attirai vers un arbre. C'est alors que sa pâleur devint inégale, des taches roses empiétaient sur ce bleuissement mouvant qui semblait rendre sa peau translucide. Notre professeur de mathématiques, Ronin, un invalide qui avait perdu un bras à la guerre, sortait de l'école à ce moment-là et il m'aida à amener Vardan à l'infirmerie. Le médecin arriva quelques minutes plus tard. J'attendis dans le couloir et alors que les deux hommes quittaient le petit local, le médecin commenta le malaise de Vardan, parlant à notre professeur d'une voix plutôt sereine et même encourageante. « Non, non, pas de panique, il se remettra rapidement. » Une semaine tout au plus et il sera d'aplomb. À présent, il peut d'ailleurs rentrer si quelqu'un l'accompagne. Non, je vous l'ai dit, son cas n'est pas si rare, enfin pour ces populations-là. Avec ses origines et les symptômes qu'il a, c'est à coup sûr la maladie arménienne. Je saurai plus tard, en parlant avec la mère de Vardan, Shamiram, que cette appellation, sans être scientifique, était couramment utilisée. Elle évitait aux non-initiés une terminologie trop savante et, par un raccourci ethnique, désignait l'un des peuples, oui, les Arméniens, qui souffraient de ce mal héréditaire. Notre professeur, Ronin, me demanda de conduire le malade à la maison, et comme pour m'adouber en me confiant cette responsabilité qu'uniquement une grande personne pouvait assumer, il me donna une tape sur l'épaule avec la seule main qui lui restait.
Je l'accompagnais donc chez lui et racontais à sa mère ce qui venait d'arriver. Vardan avait un souffle trop saccadé pour pouvoir parler. D'un petit sac de voyage, Shamiram sortit une boîte remplie de sachets, prépara une potion qu'il but avec une résignation silencieuse, étant sans doute familier de ce genre de rituels médicaux. Puis il se coucha et presque aussitôt s'endormit. Shamiram me laissa seul avec lui, me disant qu'elle devait repasser à la pharmacie. Ce fut une réalité toute nouvelle pour moi, que de me retrouver ainsi à veiller sur quelqu'un de très particulier, un être qui me devenait douloureusement proche dans son abandon de dormeur sans défense, dans sa faiblesse désarmée de souffrant. L'oreille attentive au rythme de sa respiration, je me levai et, avec un vague sentiment d'interdit, fis le tour de la pièce. Cet humble fragment du royaume d'Arménie où dormait mon ami. Depuis ma visite, rien n'y avait vraiment bougé. Sur la table, cette lampe à l'abat-jour fendillé, le vieux chandelier, des livres, un journal exposant un alphabet au caractère curieusement modelé, à la fenêtre, la mousseline des rideaux. Et là, près du lit de Shamiram, ces deux clichés anciens, aux couleurs légèrement brunies, portant dans un coin le nom du photographe imprimé en russe et orné de jolis motifs fleuris. Deux portraits de famille. Je m'approchai pour mieux distinguer les visages. L'impression de basculer dans un temps très éloigné fut incroyablement physique. Je m'égarai dans ces minutes où les deux groupes, chacun sur sa photo, prenaient la pose. Une sensation de très grande stabilité se dégageait de ces portraits. L'évocation d'une époque où le fait de se faire photographier représentait un événement important et rare. Le couronnement d'une étape biographique, marquante, d'une réussite professionnelle patiemment édifiée, d'un bilan d'existence digne d'être conservé dans la mémoire des descendants. Tous les membres de ces deux familles manifestaient une parfaite assurance dans leur situation, laissant apparaître une position sociale suffisamment prospère à en juger par leur habillement et leur apparence bourgeoise, me disais-je, ne sachant pas comment mieux définir cet alliage de la gravité des postures, de la qualité vestimentaire et de l'entière confiance en l'avenir. Le nom du photographe, souligné par un faisceau de longues feuilles d'acanthe, surplombait la date, 1913. Examinant à nouveau ces gens qui m'observaient, je fis un rapide calcul des années qui me séparaient d'eux. Presque 60 ans. Donc, les parents étaient déjà très probablement décédés. Mais les enfants avaient de fortes chances de vivre encore, et ils devaient ressembler à Sarven et à Shamiram. Oui, ce devait être à présent un vieil homme, ce garçonnet, sagement assis sur une petite chaise étroite. Habillé en adulte, il tenait, avec une mine très sérieuse, la bride d'un cheval de bois. Et aussi cette petite, figée sur les genoux de sa mère et qui serrait son jouet. Une poupée aux mains curieusement jointes, comme dans une prière à la fois fervente et appliquée. Elle l'a emportée dans le désert, cette poupée. C'est grâce à la poupée qu'on a pu l'identifier. Sinon, je me retournais en entendant le chuchotement de Vardan qui venait de se réveiller. Presque aussitôt, repris par son mal, il s'étouffa, ne réussissant à expulser de ses poumons qu'un sifflement de mots. Quant aux autres, ils n'ont même pas... La porte d'entrée cliqueta, et je vis sa mère entrer dans la pièce. Elle jeta un coup d'œil sur Vardan. Relevé sur un coude, visage rayé de spasmes, il essayait de me parler. Shamiram dut penser qu'il répondait à mes questions. Elle me voyait figée à côté des deux photos. « Il faudrait le laisser se reposer maintenant, » me dit-elle d'une voix inhabituellement froide. « Il est trop fatigué. Vous reviendrez quand il ira mieux, d'accord ?» Je quittai le bout du diable, tout aussi intrigué par l'aveu interrompu de mon amie que triste et dépité d'avoir vu Shamiram se fâcher. Elle avait sans doute cru que j'étais un bavard qui, par sa curiosité, avait provoqué un nouveau malaise chez Vardan.
Je passais désormais de longues heures aux côtés de Vardan, que son mal rendait boiteux et fiévreux. Ses genoux enflés le faisaient grimacer à chaque pas, et pour le distraire, je lui racontais ce qui se passait à l'école et en ville, réussissant à dissiper sa torture d'immobilité. Un jour, pendant que nous parlions, Gulizar entra et traversa la pièce, l'air de ne pas avoir noté ma présence. Un peu dépité, je l'interpellai avec quelques mots arméniens que j'étais heureux de pouvoir déjà articuler peu ou prou. Mon ton trop enjoué et le sens de la phrase « Bonsoir, jeune fille, comment t'appelles-tu » tombait mal à propos. Mais par gentillesse, Gulizar s'arrêta, fit l'effort de me sourire et, abasourdi, je vis qu'elle pleurait. Le plus étonnant était que rien dans l'expression calme de son visage ne trahissait sa détresse. Les larmes coulaient sur ses pommettes, sur ses joues, sans altérer la beauté de ses traits. J'étais habituée par la vie et les films aux sanglots pathétiques, aux reniflements bruyants, à la rougeur des faciès détrempés. Les pleurs de celle qui me regardait et me souriait doucement n'émettait aucun soupir ni la moindre plainte. Gulizar alla vers la porte d'entrée, s'arrêta une seconde comme pour éviter un oubli, sortit. Cette fois, elle n'emportait aucun colis sous le bras. Dans un dernier coup d'œil, j'aperçus sous sa chevelure relevée en chignon l'absence de ses boucles d'oreilles, ces jolies quinconces d'argent dont le dessin dentelé rappelait les fibrilles de givre. Vardan dut remarquer la perplexité de mon regard, et c'est alors, confus et, on eût dit, se croyant vaguement coupable de la situation, qu'il avoua la vérité. Les Arméniens du royaume étaient en train de vendre des objets de valeur et des bijoux, ce qui leur permettait de rester encore quelque temps au bout du diable en attendant la fin du procès de leurs proches. C'est triste, toutes ces belles choses qui vont disparaître. Tu te souviens de la cafetière qu'avait Shamiram? Elle l'a vendue aussi, c'est ça? Vardan, alité, se releva sur son coude et me regarda avec une étrange sérénité. Sa voix donna un écho presque joyeux à mon constat désespéré. « Non, rien ne disparaîtra. Tu vois toi-même, tu te souviens encore de la cafetière de Shamiram et donc de ces heures que nous passions ensemble. Ce temps est toujours dans ta mémoire et c'est l'essentiel. » Comme souvent, le raisonnement de Vardan me laissa intérieurement divisé. L'idée qu'un objet disparu survivait tout en ayant été perdu me semblait à la fois très juste et difficile à accepter. L'instinct de possession se mêlait dans ma tête au sens même de la vie, à mon jeune désir de toucher, de sentir et de garder la totalité de ce qui m'était précieux. Avec une divination troublante, je compris que les paroles de cet adolescent souffrant, allongé sur son lit en deux valises, provenaient d'un moment encore très distant du futur dans l'existence d'un homme âgé que Vardan allait devenir. Un moment dont il parvenait par je ne savais quel miracle à exprimer l'expérience et la sagesse. Me voyant égaré dans mes pensées, il sourit et prit un ton légèrement taquin. « Tiens, le mont Ararat, le sommet sacré des Arméniens, il est en Turquie à présent. Nous l'avons perdu, mais en fait, ne pas l'avoir nous le rend encore plus cher. C'est ça le vrai choix. Posséder ou rêver. Moi, je préfère le rêve. »
D'entendre quelques extraits de L'ami arménien d'Andrei Makine. Vous découvrirez d'autres personnages, d'autres histoires émouvantes en poursuivant la lecture de ce magnifique roman, tout en pudeur. Comme nous, comme l'auteur lui-même, vous serez touchés par la force et l'intelligence du regard que Vardan porte sur le monde, rejetant la haine et la brutalité qui l'entoure. Les textes ont été lus par Monique et Marie-Paul. Vous avez entendu des extraits du morceau Deleyaman, interprété par Jivan Gasparian et Levon Minassian, ainsi que le chant Var Siretsi, interprété par Lilith Gegamian. Claude Michel a assuré le montage. Merci pour votre écoute et à bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Radio G, savourez nos différences en RNT sur Angers. Radio-g.fr.
Chaque